Il est 9h à Bunia, à Ituri, et 8h à Bumbu, à Kinshasa. C'est l'heure de nous informer. À la présentation, Blaise Shindani Kambala.
Radio Kapi.
Bientôt, la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi. Interrompu en février 2020, le trafic ferroviaire des passagers et des fret entre Kinshasa et Matadi reprend après acquisition par l'ONATRA d'un premier lot de nouveaux équipements. D'autres équipements sont attendus dans les prochains mois. Justin Mudegueressa salue toute initiative qui va dans le sens de rétablir la paix et la sécurité dans la partie est du pays et de garantir l'intégrité territoriale de la RDC, mais pas n'importe comment. Cet ancien candidat malheureux de 2023 dit être prudent et méfiant face aux déclarations de Thabo Mbeki, qui est toujours favorable, selon lui, au plan de balkanisation de la RDC. La ville de Kinshasa va abriter du 8 au 11 octobre 2025 au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale la 10e édition d'Expo Béton 2025, placée sous le thème « 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit ». Pour en parler, nous recevons Jean Bamanissa, le président du comité d'organisation d'Expo Béton RDC. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement lancé ce vendredi 5 septembre la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi lors d'une cérémonie à la gare centrale de Kinshasa. Présent à cette cérémonie, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, a annoncé que cette reprise, qui sera effective dès la semaine prochaine, a été rendue possible grâce à des fonds de la redevance logistique terrestre instaurée par le gouvernement central et permettra à l'ONATRA d'évacuer une grande partie de 4 millions de tonnes de marchandises par an que perçoit le port de Matadi. Jude Mister Bilanda pour plus de détails.
Interrompu depuis février 2020, les trafics ferroviaires des passagers et des fret entre Kinshasa et Matadi reprend après acquisition par l'ONATRA des nouveaux équipements. Selon les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies des Communications, d'autres équipements sont attendus dans les prochains mois. Jean-Pierre Bemba Gombo.
Les 7 voitures voyageurs, dont 4 automotrices de modèle Kia 183, 2 intermédiaires de modèle Kia 182 et une unité VIP de modèle Kiro 182. Toutes climatisées et confortables que nous recevons ce jour constituent les prémices d'une longue série d'acquisitions à venir grâce notamment à la RLT. Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves ainsi que 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires.
L'objectif final est de faire rayonner l'économie de la RDC à grande échelle et faciliter les échanges intérieurs et extérieurs grâce à un transport ferroviaire sûr et performant.
Par ailleurs, les écoles primaires Assosa 1 et 2, situées dans la commune de Kassavubu, évoluent dans un bâtiment vieux de 72 ans. Délabré, il manque d'eau, pas de toilettes en bon état. Dépourvues de bancs pupitres, certaines salles de classe n'ont pas de tableau noir. Ces écoles de l'armée du salut sont sous tutelle de l'État congolais. Sarah Soumbela.
5 jours après la rentrée scolaire, les écoles Assosa 1 et 2 n'ont toujours pas revêtu d'une nouvelle robe, comme c'est le cas des autres écoles. Ici, on trouve des salles de classe avec de fenêtres cassées, sans vitres, des pavements défoncés et quelques bancs en mauvais état. Ici, la pluie est une raison pour arrêter les cours, explique cet enseignant.
Quand de pluie, il y a vraiment les enfants, c'est débris. Il n'y a pas moyen de continuer les enseignements, il n'y a pas moyen de se mettre. Chacun se met dans son coin. La pluie arrête les cours.
D'après les enseignants de ces établissements scolaires, le frais de fonctionnement reçu est de moins de 200 000 francs, une somme insignifiante face aux défis qu'ils rencontrent. Le rapporteur de l'intersyndicale provinciale de Kinshasa Funa, Diakoubama Richard, trouvé sur place, lance un appel aux autorités pour la réhabilitation de ces écoles.
C'est malheureux, mais voyez l'état des bâtiments de cette école, dans un état de délabrement total. Ces enfants que nous encadrons aujourd'hui, ce sont eux qui seront les leaders de demain. C'est pour ça que nous demandons l'appel de gens de bonne volonté, que ce soit mon ministre national, mais monsieur le ministre provincial, qu'ils viennent en aide pour soutenir cette école. L'État doit mettre la main dans la pâte pour aider ces écoles à émerger.
Les écoles primaires à Sossa 1 et 2 accueillent plus de 300 élèves de la première en 8e année.
Restons dans la capitale. Village Riche célèbre ses 25 ans d'existence et ses 10 ans d'activité en RDC. Il s'agit d'une structure partenaire du gouvernement congolais œuvrant dans le secteur de la santé. Elle aide notamment les communautés sinistrées à avoir accès aux soins et aux médicaments. La célébration de cet événement a réuni mercredi à Kinshasa plusieurs acteurs du secteur sanitaire, dont les ministres de la Santé, Wamingi Tukulu et Rachel Kalombe, pour le reportage.
Dans son mot d'ouverture, Fredy Nkosi, directeur régional de Village Rich, rappelle l'importance de l'approvisionnement en médicaments qui, d'après lui, contribue à améliorer l'accès des santé des qualités pour des millions de personnes à travers le monde, majoritairement dans l'Afrique, en collaborant avec le gouvernement, les bailleurs de fonds et autres partenaires techniques du secteur privé et des communautés, surtout les communautés les plus défavorisées ou d'accessibilité difficile. L'innovation de drones dans les secteurs du transport sanitaire reste un grand succès parmi tant d'autres réalisés dans les 10 derniers années d'activité en République démocratique du Congo. Dans un contexte marquant par la réduction de financement par le partenaire, Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, a salué la résilience de Village Rich pour son partenariat modèle et son appui logistique au ministère de la Santé. À son tour, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a salué le courage de Village Rich dans ses réalisations et accomplissements. Vous êtes parmi les pionniers qui accompagnaient les ministères dans le domaine des innovations avec le drone. Nous espérons que, à partir de cette expérience, ça ouvrira la voie à d'autres partenaires en emboîtant ses pas. Village Rich envisage de poursuivre son accompagnement afin de réduire les inégalités dans l'accès de soins de santé primaire qui répondront mieux aux besoins de communautés les plus défavorisées.
Dans un autre chapitre, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, André Wameso, a lancé ce jeudi à Kinshasa l'application Visa Pay, initiée et portée par Visa RDC. Cette nouvelle application est définie comme une solution mobile innovante, capable d'offrir un accès au paiement numérique et faciliter le transfert d'argent d'un compte à un autre en République démocratique du Congo. Selon Wameso, cette application est une solution interopérable et sécurisée qui permet aux consommateurs bancarisés et non bancarisés de payer, d'être payés, de transférer et de recevoir de l'argent à travers les banques et les opérateurs mobiles participants. André Wameso le dit au micro de Jean-Marc Matouaki.
Avant de pouvoir se dire qu'un usager de la route ou bien quelqu'un qui viendra pour acheter ses produits devra attendre que la Banque centrale du Congo emmène des francs congolais vers l'agence ou bien la succursale et aller vers une banque commerciale et ensuite la personne qui veut acheter le produit doit pouvoir se déplacer vers cette banque pour avoir de la monnaie et faire la transaction. Ça ne va plus exister directement. C'est-à-dire que avec la solution digitale et en l'occurrence Visa Pay, vous aurez directement des sous dans votre application mobile et vous pourrez acheter n'importe quel produit et la personne qui vend ces produits va recevoir de l'argent sur son application et avec cet argent, elle pourra épargner, pourra faire elle-même d'autres achats, elle pourra se réapprovisionner auprès de ses fournisseurs dont la circulation monétaire va être rendue possible via la digitalisation et ça rentre dans la véritable stratégie de la Banque centrale.
Intervenant à son tour, la directrice générale des Visa RDC, Sophie Kafouti, a souligné que Visa Pay vise à stimuler la croissance économique et contribuer à repositionner la RDC en tant que leader régional de la technologie financière. Nous le disions en titre, le président du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements salue toute initiative qui va dans le sens de rétablir la paix et la sécurité dans la partie est du pays et de garantir l'intégrité territoriale de la RDC, mais pas n'importe comment. Dans une déclaration faite ce vendredi aux États-Unis, Justin Mudekereza, également pris du leadership Nelson Mandela, et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, dit être prudent et méfiant face aux déclarations de Thabo Mbeki, qui est toujours favorable, selon lui, au plan de balkanisation de la RDC. Le condensé de cette déclaration avec vous, Jean-Désiré Kanyama.
Le président du parti politique MDVC exige dans sa déclaration la cessation des hostilités et des tueries pour permettre aux populations de l'Est de reprendre la vie normale. Justin Moudé-Kereza, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo, invite tous les compatriotes qui prennent part à la conférence organisée en Afrique du Sud par la Fondation Thabo Mbeki de garder l'esprit qu'aucune paix durable bénéfique à la RDC et aux générations futures ne proviendra de l'extérieur. Aux forces vives de la nation, les prix du leadership Nelson Mandela demandent de chercher à convaincre le président de la République à très vite organiser le dialogue national global et inclusif. Pour Justin Moudé-Kereza, mettre l'accent sur la diplomatie seule est une erreur d'appréciation du conflit congolais. Aussi, pense-t-il, c'est une connaissance artificielle du problème. Le MDVC, parti de l'opposition politique extra-parlementaire, demande enfin au président de la République de mesurer la gravité de la situation actuelle à l'est de la RDC, ainsi que les risques de balkanisation que courent les pays.
Parlons à présent de ce mouvement de grève à la demande de la nouvelle société civile congolaise à Uvira pour protester contre la désignation du général Olivier Gassita en qualité de commandant en charge des opérations et du renseignement au sud Kivu. Le porte-parole de FARDC parle d'une manœuvre des ennemis de la République qui cherchent à diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FARDC. Général Sylvain Ekenge ajoute que le général Olivier Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma et de Bukavu. C'est un patriote qui ne va jamais se compromettre. On écoute Sylvain Ekenge dans cet extrait proposé par Jude Mystère Bilanda.
Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire. Et ce, sur une décision de la haute hiérarchie. Il a le total soutien des forces armées, il a le total soutien des autorités, et surtout des autorités militaires. Et ces autorités savent que c'est un patriote qui ne va jamais se compromettre. Si tel était le cas, les services l'auraient déjà mis hors d'état de nuire, comme ça a été le cas avec d'autres qui sont aujourd'hui aux arrêts.
Dans le territoire de Beni pendant ces temps, 8 dépôts avec une importante quantité de planches sont partis en fumée dans un incendie survenu jeudi soir dans la commune rurale d'Oïcha à 30 km de la ville de Beni. Selon la société civile communale, le sinistre serait dû à un feu d'origine inconnue. La police a ouvert une enquête. Le même jeudi, la ville de Goma a été frappée par 2 incendies successifs dans l'après-midi, provoquant la panique parmi la population et mobilisant d'importants moyens humains et matériels. Le premier s'est produit à la station-service Serufuli, située sur la route Goma-Sake au niveau de l'entrée président, quartier Katoy, commune de Karisimbi. L'incendie, dont l'origine reste inconnue, est survenu lors du remplissage d'un jerrycan dans la station essence. Il a causé d'importants dégâts matériels, 2 véhicules, 5 bureaux, une maison en bois et la station elle-même ont été ravagées par les flammes. Plusieurs installations en bois sur un marché voisin ont également été détruites. Aucun décès ni blessé n'a été signalé. Une intervention rapide et coordonnée a permis de maîtriser l'incendie grâce à la mobilisation de nombreux sapeurs-pompiers issus des différentes équipes, dont celle de la MONUSCO et de la protection civile de la ville de Goma. Vers 17h, un deuxième incendie s'est déclaré au quartier Virunga, sur l'avenue Moulamba, toujours dans la commune de Karisimbi. 3 maisons en bois ont été consumées. Un camion de pompiers de la MONUSCO et une équipe de la protection civile de la ville sont allés sur place pour éteindre les derniers foyers. Nord-Kivu toujours, riverains et responsables du parc national de Virunga veulent enterrer la hache de guerre. Ils se sont réunis jeudi à Kasindi-Lubiriga, cité frontalière de l'Ouganda, située à 90 km de la ville de Beni. Objectif, mettre en place des mécanismes de résolution pacifique des conflits autour des limites du parc, notamment au niveau des quartiers Congo-Yassika et Mapati. organisée par la société civile en collaboration avec les autorités locales, les représentants de toutes les couches de la population, les responsables du parc ainsi que l'administration foncière et de sécurité ont pris part à ces dialogues communautaires. Arnold Paloukoumouvoya, représentant des personnes du troisième âge et l'un des participants, parle de son importance au téléphone de Marc Marofimbo.
Comme on a déjà essayé de mettre une file électrique pour séparer l'espace occupé par la population et l'espace du parc, ce qui nous manquait, c'est la réglementation réelle de cette situation. Parce qu'on connaît que l'État est là. Et quand l'État prend des choses, donc c'est pour chercher des solutions durables. Heureusement, avec cette séance, je vois qu'il y a une accalmie qui va se présenter. Parce que si on va suivre la réalité des choses, comme la population elle-même est convaincue des différentes missions organisées par l'État, telles que la commission ad hoc avait prévu des mesures pouvant séparer tout un chacun. Je vois que vraiment cette séance est pertinente pour la vie de cette population. Ma recommandation est que la population soit attentive à fournir toute information possible. Et j'encourage, comme l'État lui-même a pris soin de prendre mesures, puisqu'auparavant c'était méli-mélo, on ne savait qui fait quoi. Maintenant, il faut que l'État comprenne l'émotion de sa population et la population aussi comprenne la mission de nos gouvernants.
Actualité internationale.
700 jours se sont écoulés depuis l'attaque du 7 octobre 2023, une date symbolique qui marque aussi les redoublements des bombardements à Gaza. L'armée israélienne a détruit une tour dans la ville de Gaza vendredi 5 septembre et elle affirme que les opérations vont s'intensifier dans les jours qui viennent. Certains habitants se plient aux ordres d'évacuation et quittent les zones ciblées, terrifiés.
L'invité.
La ville de Kinshasa va abriter du 8 au 11 octobre 2025 au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale la 10e édition d'Expo Béton 2025, placée sous le thème 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit. Pour en parler, nous recevons Jean Bamanissa, président du comité d'organisation d'Expo Béton RDC. Il est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Marcel Ngomombala.
Monsieur Jean Bamanissa, bonjour.
Oui, bonjour Marcel Ngombo.
Cette 10e édition est placée sous le thème 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Pourquoi ce thème?
Écoutez, nous savons que nous avons connu des problèmes, nous sommes aussi en train de travailler. Toutes les institutions de la République travaillent, le chef de l'État a une vision claire sur cette résolution des conflits. Nous sommes soutenus par des grandes puissances, les États-Unis, le Qatar et beaucoup d'autres institutions européennes, africaines, etc. Et nous devons nous préparer. Nous préparer, c'est ne pas résoudre le problème seulement autour des tables sans donner des solutions aux populations, et ces solutions passent par des programmes de développement. Et donc nous devons être ambitieux parce que le Congo n'a pas besoin des budgets minimalistes. Le Congo a besoin des grands moyens pour faire face à tout ce besoin. Et l'approche d'Expo Béton de cette fois-ci, c'est réfléchir sur un genre de plan Marshall qui peut être adapté à notre pays en allant sur des pôles. Nous avons 6 grands pôles dans la RDC, donc le pôle nord, le pôle est, le pôle central et le pôle ouest et sud. Et donc, quels sont les problèmes dans chacun de ces pôles? Donc, ça va concerner un peu tout le monde, même si on n'y sera pas, mais nous allons parler des problèmes de la Grande Orientale, nous allons parler des problèmes de Maniema, nous allons parler des problèmes de différentes provinces à travers des points qui sont précis et qui sont essentiels à leur économie, à leur bien-être, aux solutions qui doivent être trouvées pour une croissance comme le prévoit le PNSD Vision 2050 et avec une appropriation sur l'avenir de la jeunesse qui doit déjà se préparer de ce programme jusque 2050, mais se l'approprier aussi, parce que nous parlons du 21e siècle, se l'approprier jusqu'à la fin du siècle.
Sur les préparatifs de cette 10e édition, qu'est-ce qu'il y a exactement?
Écoutez, à l'ouverture, nous aurons le panel présidentiel avec le chef de l'État, et nous avons convenu donc qu'il participera à ce panel où nous aurons comme modérateur l'ancien ministre de l'économie et du plan, qui est le sénateur Vunabandi, avec Madame la Première ministre, qui va donner la vision du gouvernement gouvernement pour asseoir les fondations d'une croissance soutenue. Et nous avons invité le conseiller spécial du président américain, Massad Boulos, qui est aujourd'hui aux commandes des négociations qui se font avec le Qatar. Nous avons invité aussi le premier ministre du Qatar et nous avons des grandes sociétés minières qui vont être là. Nous allons parler aussi des possibilités qu'il y a pour que les actifs congolais qui sont sur le foncier, le minier, les ressources naturelles à travers Congo Ressources qui vient d'être mis en place par le gouvernement, qui est une très belle vision, puissent justement attirer aussi l'intérêt pour que la bourse mercantile de Kinshasa qui va regrouper tous ces actifs-là puisse justement prendre de la valeur sur ces actifs. Et puis après, nous allons aller sur des thèmes par zone, par pôle économique. Les 6 pôles économiques de la RDC seront traités chacun avec son domaine et nous aurons des ateliers aussi aujourd'hui. La question agricole va être aussi discutée avec un partenaire qui est beaucoup plus là. Mais vous savez, tout se touche. Hein. Sans les bâtiments, sans les travaux publics, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, rien. Donc la base reste les travaux publics auxquels aujourd'hui nous avons des partenaires qui viennent pour pouvoir réfléchir sur les questions de financement, sur les questions d'infrastructure, sur la relance des filières agricoles qui est une priorité pour la vision 2050 du gouvernement congolais.
Si je comprends bien, il n'y a pas de raison de manquer à cette 10e édition d'Expo Béton. Les conditions pour participer?
Écoutez, les conditions, ce sont les entreprises. Nous invitons les entreprises. Il y a parmi les plus grandes qui sont en train de s'inscrire, qui sont des exposants et des sponsors. C'est eux qui permettent à Expo Béton de fonctionner. Et nous appelons le plus grand nombre aussi du secteur des BTP ou d'autres secteurs de l'industrie à pouvoir être là, nous contacter. Ça va être 4 jours ouverts sur le Congo et sur le monde. Donc, bienvenue aux entreprises qui vont exposer et qui sont nos sponsors.
Monsieur Jean Bamanissa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal qui a connu la coordination éditoriale de Jude Mystère Bilan Nkuma, remise en onde par Alain Goy. Blaise Chindani l'a présenté. Ce journal est à suivre sur toutes nos plateformes digitales et dans notre site internet qui est www.radiocapi.net.